Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on découvre que malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré les épisodes compliqués de la vie, le choix d'avancer sereinement, eh bien c'est possible. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Et Hanan Ouaziz, bonjour.
Bonjour, Lélie Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remercie Lélie Hanan.
Merci beaucoup. Et toi, j'espère que tout va très bien pour toi.
Alhamdoulilah. Je suis très contente d'avoir des femmes d'aujourd'hui dans le monde entier. Toi, tu n'es pas au Maroc. Toi, tu es une Marocaine installée en France.
Oui, c'est ça, exactement, en Ile-de-France.
En Ile-de-France. Ça fait combien d'années que tu es en France ?
En France, j'y étais à une époque. Ensuite, nous sommes rentrés au Maroc en 2013. Et encore, nous sommes revenus en France en 2022 pour effectivement des raisons de santé.
Oui.
Donc, nous sommes revenus en France en famille avec mon mari et mes enfants en 2022.
Est-ce que tu as toujours été dans ça, dans le développement personnel, l'accompagnement des autres ? Ça a toujours été ta profession ?
Alors non, peut-être l'accompagnement des autres, oui, mais pas le développement personnel. Alors moi, je suis de base... J'ai une ancienne vie professionnelle dans l'enseignement avec le ministère de l'Éducation nationale, avec l'école publique marocaine, depuis 2001. Donc, mais surtout, mon approche était différente pour donc, les gens qui ont été formés à l'enseignement et avec les centres pédagogiques du ministère de l'Éducation nationale vont savoir de quoi je parle. On a été formé à la didactique, aux méthodes dans l'enseignement, aux sciences de l'éducation. Et aussi, on a des ouvrages des philosophes et de toutes les thématiques de l'éducation et de l'humain. Et moi, surtout, ce qui m'attirait le plus, c'était Jean Piaget. Dans tout ce qui est la psychologie de l'enfant et tout. Donc, j'étais vraiment dedans. Je me posais des questions. Je me disais, bon, quand j'ai pris les classes et commencé à enseigner en 2001, je me disais... Comment est-ce que je peux faire différemment ? Qu'est-ce que je peux apporter de positif à cette école marocaine, à cet élève marocain qui est d'abord un enfant ? Donc, je me posais les questions. Je voulais faire autrement. Pourquoi ? Je vais ouvrir une petite parenthèse. D'où vient cette volonté profonde de faire autrement ? Moi, j'étais, si je peux dire ça, j'étais une élève brillante dans tout mon parcours. Et au début du collège, je portais des lunettes. D'ailleurs, je les porte toujours. Et la majorité des profs, quand je voulais passer au tableau, on m'appelle ni Hanan ni Ouaziz. Laura, passe au tableau. Laura, viens au tableau. Tu as eu la première note. Bravo, Laura. Bravo.
Oh là là.
Je faisais du sport. J'étais dans les associations scolaires. J'étais aussi, je participais à des concours de poésie. J'étais écrivaine. Et toujours ce mot, Laura. Vraiment, et heureusement que ça ne m'a pas bloqué. Je ne vais pas dire que ça ne m'a pas touché ou impacté. On est quand même des humains, mais ça ne m'a pas bloqué. Et c'est aussi un message à travers ton émission, Yasmine, et je t'en remercie pour l'invitation et pour tous tes efforts, les efforts que tu fais. C'est un message aussi que j'aimerais passer à tous les jeunes, à tous les parents, à tous les professionnels et tout l'entourage de l'éducation, soit de l'enfant, soit de l'adolescent, et pourquoi pas de l'adulte aussi. Soignons nos mots, soignons notre langage, parce qu'on ne peut pas imaginer à quel point. Parce que parfois, ce n'est pas forcément les professeurs, parfois même les parents, par amour et par volonté et bonne intention de bien faire, on peut dire des mots négatifs à nos enfants, soi-disant « je l'encourage ».
Exactement.
Mais on ne peut pas imaginer à quel point les mots négatifs font mal, très très mal, très très mal.
Qu'est-ce que ça a planté en toi, ces mots-là ?
Comme quoi c'était pour moi, à cet âge d'adolescente, c'était de l'injustice.
Alors, une petite question, Lala Hanan. Ça, c'était à l'école. À l'époque, on parlait pas de harcèlement des enfants. Aujourd'hui, c'est pas tolérable du tout. Mais à la maison, est-ce que tu parlais de ce mal-être à quelqu'un?
Non. Ben c'est ça le ce qui fait encore ancrer ça encore plus, parce que pour nous et pour précisément ma famille, donc les profs c'est à l'image des parents, et donc c'est pas grave et c'est pas méchant, ce n'est pas pour te faire de mal quand on te dit ça, mais c'est pour t'encourager. Et d'ailleurs, il y a pas de mal, hein, on t'a rien dit de mal, tu portes des lunettes, donc il n'y a pas de mal. Et d'ailleurs, donc c'était professeur, donc il faut pas...
Il faut respecter.
Il faut respecter, il faut... Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça touche en toi? Comme quoi les mots, à l'époque, non, il faut vraiment le te faire de mal physiquement pour en parler, alors que oui, comme tu le dis maintenant à Yasmine, heureusement que les gens ont compris que le harcèlement fait parfois plus de mal... Que la violence physique parfois.
Alors, comment tu as fait pour t'en sortir à l'époque, alors que tu n'étais pas outillée, ni de l'adulte que tu es devenue, ni de la coach professionnelle que tu es devenue, ni le soutien à la maison? Comment tu as fait pour t'en sortir, croire en toi et ne pas te voir uniquement à travers le prisme de ces personnes qui te traitaient de non? Négatif.
Oui, tu as raison. En fait, oui, comme tu l'as dit à l'époque, sans avoir ces outils-là, sauf que là, je faisais tout ce qui est travaux manuels qu'on faisait à l'époque, que ce soit les filles ou les garçons, chacun à sa manière. C'était comme, là maintenant, je le vois avec cet œil d'adulte et de coach, mais à l'époque, je ne savais pas que ça me faisait tellement de bien. Mais de toute façon, je me sentais à l'aise. C'est comme une déconnexion de cette réalité, de cette partie de la réalité que je refusais de voir et que je refusais d'accepter. Je me disais non, c'est injuste quand même que je sois traitée comme ça. Je mérite mieux que ça. C'est ce que je me disais. Donc le fait de chercher à oublier tout ce que je vivais à l'époque de temps en temps de mal... je faisais tout ce qui est broderie fessier, broderie la pointe de croix, je faisais le crochet, je faisais la peinture. Et d'ailleurs, c'est à partir de la fin, la dernière année du collège que j'ai commencé la peinture, et jusqu'à présent, je suis artiste peintre, et c'est aussi parmi donc les outils qui m'aident aussi à sortir, à me relaxer, à m'épanouir. Et aussi, je faisais la guitare et je faisais la photo. Et bien sûr, nous sommes des musulmans, bien sûr, on dépasse tout ça et on arrive à surmonter tout ça grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala, et aussi à accepter tout ce qui nous arrive sans bien sûr abandonner de chercher le changement. Moi, si je veux donner un conseil à quelqu'un, c'est vraiment ça. Parce que le fait de ne pas aimer une partie de notre vie ou des choses qu'on est en train de vivre ou quelque chose qui nous arrive, ne veut pas dire de ne pas l'accepter. D'ailleurs, ça, on l'a dans notre religion, Iman bil qada' wal qadar khairi wa sharri. Et en avançant dans tout ce que je fais comme formation et comme recherche dans le développement personnel et le coaching et le comportement humain, je trouve que nous avons eu la chance d'avoir une grande partie de tout ça dans nos valeurs musulmans et dans nos valeurs marocaines et dans nos traditions. Sauf que malheureusement, de temps en temps, on oublie tout ça, on cherche à l'abandonner, et après, qui met un goulot, les cléfiches de l'art. Donc, cette reconnexion à nos valeurs, à notre pays, ça fait du bien. Ça fait du bien.
Ok. Alors, ça, c'est finalement ce qui t'a permis de croire en toi, de traverser le chemin de la vie. À un moment, donc, tu es partie en France avec ta petite famille, tu es revenue et tu es repartie, tu as dit, pour un souci de santé, et c'est un souci qui t'a touché toi personnellement.
Oui, c'est ça.
C'était un cancer.
Oui, c'est ça. Alors au début, on ne savait pas, parce que c'était effectivement la raison principale pour laquelle donc j'ai quitté parce que j'avais un poste donc de fonctionnaire au Maroc. J'ai tout laissé sans demander ni droit ni retraite anticipée ni rien. Donc là c'est déjà la grande perte, c'est de quitter le Maroc. Parfois des amis qui ne connaissent pas, donc en échangeant juste entre amis ici en France, parfois on me dit oui, t'as choisi la mauvaise période, là les gens ils sont en train de rentrer au Maroc, et l'argent, tu sais, la richesse, elle est au Maroc. Oui, mais c'est ça le changement de priorité. À un moment dans la vie, on n'a pas toujours les mêmes priorités, donc on n'est pas censé prendre les mêmes décisions. Et donc, à cette période de ma vie, je ne cherche plus à faire une maison. J'ai laissé ma maison à Casa, je ne cherche pas à acheter ma première voiture. On avait pas mal, donc plusieurs voitures, on changeait de voiture, mais c'est vraiment ce qu'on cherchait là. Et c'est aussi trouver une autre porte. Donc c'est une autre porte.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu ne savais pas.
Je n'avais pas une garantie que je trouverais le remède, mais comme on dit, ça ne peut être un SBEB ou à la fin, je suis fait biédillet. Donc le diagnostic que j'avais au Maroc, c'est plusieurs. Donc j'avais des saignements presque tout le temps, une baisse d'hémoglobine jusqu'à 4, la ferritine, parfois on ne la trouve pas, la vitamine D, c'est vraiment toujours plus que la carence, ce n'est plus. Donc je prends le traitement, on me mettait même des perfusions de fer, après 48 heures, je fais la prise de sang, on ne trouve plus le fer. Quand on est revenu en France, donc pour, comme j'avais dit, des raisons de santé, donc ma famille a sacrifié aussi beaucoup dans ce retour, parce que mon fils était à l'année du bac terminal.
D'accord.
Et le dernier souhait d'un bachelier ou de changer de pays, d'école et tout ça. On a pris un moment avec lui, son papa, lui et moi. Je dis, écoute, mon fils, si tu choisis de rester, tu peux rester, faire ton bac, peut-être reposer tranquillement. Mais, alhamdoulilah, il m'a dit, écoute, maman, c'est toi qui lui dis, qu'est-ce qui va se passer de pire? Je refais l'année? Je suis prêt à refaire l'année. La santé de maman d'abord. Et la vérité, alhamdoulilah, je remercie Dieu, j'ai toujours le soutien de ma petite famille, de ma grande famille.
Et finalement, c'était quoi la maladie?
Au début, ça a été diagnostiqué comme sclérose en plaques.
Okay.
Et ensuite, on continue le traitement en France. Donc finalement, c'était alhamdoulilah c'était exactement le 18 février 2025 que j'ai fait l'opération donc d'enlever l'utérus. On a fait son rôle. Alhamdoulilah, j'ai eu des enfants là. J'avais un troisième qui est décédé à Rabat en 2011. Et là maintenant, j'ai alhamdoulilah un garçon de 19 ans et une ado de 12 ans.
Et le deuil, comment c'était?
Le deuil?
Oui.
Le deuil, je ne sais pas. Je pense que c'est toujours en cours. Parce que maintenant, je suis en train de faire
le bébé.
Donc, mon fils, c'était en 2011. Ma mère, elle avait une leucémie. Elle est décédée à Casa, à la clinique du littoral, en 2017. Et mon frère, c'était en 2022. Il est décédé, il avait 29 ans. Et la vérité, ce qui m'a bouleversée le plus, c'est j'étais illogique, c'était vraiment les parents, mais je ne sais pas, je l'ai vécu comme ça et je le dis spontanément comme ça. C'est vraiment le décès de mon frère de 29 ans. Ma mère, c'est comme si on était préparé, surtout à un moment donné quand tu vois que tu n'as plus rien à faire, tu ne contrôles rien. Parfois, on croit qu'on contrôle notre vie. Et finalement, là, on ne contrôle rien. C'est vraiment...
Mais pourquoi le décès de ton frère t'a touché plus que celui de ton fils?
De mon fils et de ma mère. Parce que mon fils, elle était aussi hospitalisée. Ma mère, la même chose. Mais mon frère, non, on m'a laissé en bonne santé. Et d'ailleurs, il s'occupait de moi quand je n'arrivais plus à bouger, quand je ne suis plus autonome. Il avait un diplôme, il était diplômé, il recevait des offres de travail. À chaque fois, quand je lui dis, il s'appelait Mohsin Larhmou, je lui dis, écoute, la jeunesse, c'est ça, l'avenir, il faut que tu commences à travailler, il faut que tu fais ta vie. Il me dit, écoute, Hanan, faire sa vie, c'est aussi faire la vie d'ici et la vie de delà. Il n'y a pas que la vie d'ici. Moi, quand je t'aide et je vois que je sers à quelque chose, je suis utile pour toi, le khidma, il me dit, pour moi, et c'est pour ça que je t'avais dit tout à l'heure qu'il y a des phrases plus parlantes dans Darija, il me disait, c'est pas que Darija, شوف يا حنان راه نهار وقفي على رجليك راه بحال الا ناقص ماما من القبر فور موا قال لي فور موا سي سا اي دونك كوم كوا اوسي سكو جو بارطاجي انا هاد الجمله كنا تنقولوا الاجل راه الموت راه بالاجل ماشي المرض اللي تيقتل ماشي هذا مو سي جو ديزي جو ديزي او جون اي جو مو ديزي مي بور تو دير ياسمين سيت فراز بحال الا كنت غير كنقولها بفمي مي جو لي فيكو. Le fait que pendant des années, mon frère qui s'occupait de moi et qui était là pour nous, pour ma petite famille, et ben finalement, moi je suis toujours en vie, j'ai repris l'autonomie doucement, je dis le traitement. Alhamdoulilah, c'était une grande joie pour ma famille, Mihayit Libiki, ou l'Itankr. Je sors toute seule parce que pendant des années, je suis devenue comme un enfant, l'Imchimère. Il faut que quelqu'un le dépose, il faut que quelqu'un l'accompagne, il faut qu'on reste avec lui, oui. Il faut qu'on ne le laisse pas tout seul à la maison. Vraiment, pendant des années. Et donc, lui, il a un accident à El Jadida vers fin juillet 2022. Allah yarhamou, une hémorragie interne. Et ça y est, hein, c'était est dans la nuit. Le lendemain, c'est un vendredi, il est parti. Mon père, il l'a laissé à la clinique juste pour aller prier le Jumu'a, il est revenu.
Alors justement, alors toi, justement, tu es coach en Ikigai. Ikigai, c'est cette philosophie japonaise, voilà, qui vise à finalement trouver sa mission de vie. Avec toutes ces expériences de vie que tu as eues, il y a eu beaucoup de douleurs quand même. Tu as parlé de ton fils qui était hospitalisé, donc il était malade, donc il y a eu la maladie, il y a bien sûr le diagnostic d'un enfant malade, il y a la maladie, il y a le traitement, il y a le départ d'Yelo, il y a la reconstruction de la famille, il y a eu le départ de ta maman, il y a eu le départ de ton frère, il y a eu ta maladie à toi. Ton ikigai à toi, l'Hanan, est-ce que tu l'as trouvé, à part aider les autres?
La vérité, je ne sais pas, parce qu'on peut parler de trouver sa voie ou pas. Ce n'est pas vraiment un objectif facilement atteignable. Et c'est pour ça que j'ai dit aussi, Yasmine, pour ce concept de l'ikigai, je dis souvent à mes clients, l'ikigai, il ne faut pas s'attendre, parce que parfois, on entend les concepts, on les comprend d'une manière, et surtout les gens qui mettent en avant les choses d'une manière très commerciale, l'ikigai, trouver son ikigai, c'est pas quelque chose, c'est pas définitif, hein, et c'est aussi une bonne nouvelle, c'est la beauté du travail sur soi.
Oui.
Donc, l'ikigai que vous allez trouver cette année n'est pas forcément que d'ici un an ou six mois ou quatre ans, vous allez trouver la même chose. Donc, ça ne va pas, ça ne doit pas vous choquer. Pourquoi ? Parce que nous changeons, le monde qui nous entoure change, et nos proches changent, et nos priorités changent.
Mais ça, c'est
donc
magnifique.
Les priorités,
évoluent.
Donc, les priorités qu'on a cette année ne sont pas les mêmes qu'on avait il y a 20 ans, et ne seront pas, bien sûr, les mêmes. Par exemple, là, si tu me poses la question, Yasmine, tu as parlé de mon ikigai à moi, c'est vraiment, je me retrouve dans tout ce qui touche à l'humain, tout ce qui... Parce que je me dis que les gens, parfois, quand une personne parle, et ça me fait mal quand elle fait l'auto-sabotage avec elle-même, et surtout quand elle parle qu'elle ne sait pas en quoi elle est compétente, elle n'a pas de talent. Il y a des gens qui te disent non, oui, j'ai eu des études, je gère des équipes, mais quand même, je ne me vois pas compétent. Mais c'est dommage. Chacun, dans son petit coin, avec sa petite touche, avec le moindre geste, il peut changer le monde. Il peut apporter son changement au monde.
Alors, Lala Hanan, justement, toi, tu es en train de changer le monde avec cette phrase aujourd'hui, Angul Kalesh. Parce que toi et moi, nous faisons. Anaouyek, Anaouti, on fait partie de la génération. On n'a pas grandi avec cette notion ou là, cette autorisation de pouvoir changer. Le changement n'est pas acceptable, en fait. Ça fait chnoubriti.
Tu fais n'importe quoi.
Tu fais n'importe quoi ou chnoubriti, ma katahmatchallah. Ça fait. Parce que tout changement dans la tête des gens dans la perception équivaut à chamboulement. Et donc, pourquoi chambouler un ordre établi?
Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'accompagne aussi mes clients sur la... on ne parle plus de gestion des émotions, parce qu'avant, les gens, j'entendais contrôler ses émotions, contrôler. Mais pourquoi les contrôler? Surtout réguler. Et d'ailleurs, c'est parmi les thématiques que j'avais fait avec Jadara Foundation à distance, avec les étudiants de la médecine, c'est la gestion des émotions. C'est ça. Donc, j'accepte que, par exemple, j'ai subi ou bien j'ai fait un choix d'enlever, oui, mon utérus parce qu'il était cancéreux, donc il y a des conséquences par la suite. Et oui, son rôle, c'est faire des enfants. Mais ce n'est pas si simple que ça, c'est quand même une partie de soi. Et donc, oui, je l'accepte, j'accepte. Donc, qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, rapidement, peut-être, justement, Lahanan, est-ce que c'est une discussion que tu as eue avec ton époux par rapport à ça? Est-ce que c'est un soutien que tu as recherché, que tu as eu besoin d'avoir?
Oui, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je parle, que c'est important d'en parler. D'en parler et aussi d'expliquer à ses enfants. Bien sûr, ça dépend de leur âge, de savoir quelles sont les informations qu'ils sont prêts à recevoir, pour aussi comprendre de temps en temps les crises de colère de maman, parfois les changements d'humeur. Donc c'est aussi les préparer, parce que c'est un changement de vie pour toute la famille. À cette occasion, je tiens, j'ai tous mes remerciements pour mon mari, alhamdoulilah, il était en tout soutien avec moi, et aussi donc ma famille, comme tu le dis, mes enfants, l'équipe médicale, ma famille du Maroc, mes amis, vraiment, je parle encore des amis, la force d'avoir des amis, alhamdoulilah. C'est un grand soutien. Mais comme tu le dis, dans ce qu'on vit dans la vie de femme, c'est très très important le soutien dans le couple.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.